Olivier et Amand, bonjour, bienvenue sur The Swiss Box. C'est un énorme plaisir que de vous recevoir. Merci beaucoup pour votre disponibilité.
Bonjour Antoine et merci de me recevoir.
Alors, je suis en train de suivre la célèbre formation Sator hein, sur la robustesse. Et puis, ça fait longtemps que j'observe des dysfonctionnements quand même relativement énormes dans notre société. Donc, l'analyse que je fais, c'est que ça ne va pas. Mais bon, ça ne suffit pas pour comprendre qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le changer. Et j'ai toujours pensé qu'une forme de maturité, c'était de s'inspirer du vivant, de la nature, peut-être pour revenir sur ces termes aussi, pour essayer de nouvelles choses. Et puis, c'est à ce moment-là où j'ai découvert tes travaux. Et puis, j'ai vu qu'il y avait bien des idées, puisque tu es biologiste, chercheur en biophysique également. Et du coup, quand je vois le monde, on pourrait peut-être commencer par là, parce que dans ce podcast, on parle beaucoup aussi de géopolitique. Mais est-ce que les crises actuelles, notamment le génocide à Gaza, est déjà le symptôme ou la conséquence d'un basculement du monde, d'un système qui n'est plus capable finalement de répondre aux attentes qu'on a aujourd'hui pour vivre dans un monde sain et harmonieux, si je peux dire ça comme ça?
Alors, les liens sont très indirects, évidemment, hein, mais on peut considérer qu'en tout cas, derrière un des facteurs, on peut le dire comme ça, un des facteurs, c'est cet extractivisme que l'on a mis en place progressivement. Si on doit remonter très loin, hein, on peut considérer que les premiers humains qui ont commencé à se déplacer, à migrer, donc à 40 000 ans, 30 000 ans, enfin, ça fait très longtemps, hein, et qui ont décimé la mégafaune terrestre, c'était quelque part extractiviste, hein, des techniques de chasse sociale extrêmement performantes. Et puis après, bon, j'accélère, hein, mais l'agriculture, les monocultures, l'esclavagisme, la colonisation, les plantations, la mécanisation durant la révolution industrielle, et puis l'explosion des performances au XXe siècle, hein, et puis aujourd'hui, voilà, l'IA, tout ça. Donc en fait, on est dans un moment c'est une trajectoire où on a tout construit, nos modèles socio-économiques, sur l'abondance matérielle. Et donc, en fait, on est là pour garantir une forme d'abondance matérielle. Donc, l'aspect extractiviste a des conséquences d'un point de vue géopolitique, évidemment, parce que les territoires, typiquement pour, si je prends l'exemple d'Israël, alors ce serait plutôt avec le Liban ou la Syrie, mais sur l'eau, par exemple, il y a un enjeu très clair. Et puis après, viennent se greffer là-dedans les mythes. En fait, ce qui va coordonner l'activité humaine, c'est les mythes. Et d'ailleurs, ça vient avant l'agriculture. Hein. Les peintures rupestres, par exemple, c'est des mythes qui vont, pendant des milliers d'années, apparemment en tout cas, coordonner une forme de pensée humaine. Et bien donc, on peut penser que les mythes, et donc les idéologies, poussent dans la même direction, toujours dans cette direction extractiviste, quoi, finalement. Alors, c'est une caricature, hein, il n'y a pas que ça, mais donc ça joue. Et c'est plutôt là, en effet, où il y a un sujet, c'est que cette culture de la performance permanente, hein, il faut extraire le maximum en un minimum de temps, et ben c'est une culture de la violence. Parce que quand on veut être très efficace et très efficient, donc atteindre son objectif le plus vite possible avec le moins de moyens possible, c'est toujours violent. Et donc, ce n'est pas gênant si c'est ponctuel, si c'est des petits moments de performance. Donc, par exemple, quand on fait un sprint, voilà, ça, c'est un moment de performance, mais c'est court, parce qu'après, on récupère, on se repose. Le problème, c'est quand on fait ça tout le temps, et ben, c'est une culture de la violence. Et donc, le génocide à Gaza, c'est une des multiples manifestations de cette culture de la violence.
Et on parlait de nature et de s'inspirer de la nature. Enfin, je parlais de ça tout à l'heure. Ça sous-entend qu'on serait déconnecté de la nature et que nous, humains, on ne ferait pas partie de la nature. Mais philosophiquement, quand j'y pense, je me dis, nous sommes la nature également. Du coup, ces dysfonctionnements, entre guillemets, ce qu'on pourrait sembler comme erreur, puisqu'on pense moralement qu'il ne faudrait pas se battre, pas s'entretuer ou pas s'autodétruire, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le fonctionnement, je dirais, du vivant, animal, toi tu étudies beaucoup aussi les plantes, est-ce que les êtres vivants, autres que humains, se font aussi la guerre?
Bien sûr. Alors il y a beaucoup de compétitions, beaucoup de guerres chez les êtres vivants, et ce qui est assez fascinant, c'est que les êtres vivants qui entrent en compétition, souvent ce sont des êtres vivants qui ont accès à une abondance de ressources. Bah, typiquement, quand vous allez au parc et que vous jetez du pain, les pigeons vont se battre pour manger les miettes de pain. Ça c'est, c'est ce qu'on voit chez les êtres vivants. Quand il y a abondance de ressources, ça stimule la compétition. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait vu Darwin. Voilà, il en avait fait une loi, mais il a parlé d'autres choses aussi. Hein. C'est la partie qu'on a voulu extraire de Darwin, mais il y a d'autres choses dans Darwin. Et donc, en effet, quand il y a beaucoup de ressources, les êtres vivants ont tendance à aller vers la compétition et vers la performance. Et donc, nous sommes des êtres vivants comme les autres. Le problème, c'est qu'on a eu accès à, notre conscience, notre cerveau, notre intelligence, hein, finalement, on a eu accès à des ressources, à la boîte de Pandore, typiquement le pétrole. Voilà. On a eu accès à l'équivalent de centaines de millions d'années d'énergie stockée, comme ça, et qu'on a brûlé en quelques centaines d'années. Donc, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on a eu accès, enfin, c'est un des nœuds du problème, on a eu accès à énormément de ressources en très peu de temps, et donc on s'est transformé en parasite sur Terre. Et donc, on est exactement comme, d'ailleurs, Michel Serre en avait parlé avant moi, hein, le parasite, son bouquin, c'est ça, hein, c'est l'homme est un pou pour l'homme. Hein, voilà, donc, en fait, on est en train de se comporter comme des parasites sur Terre, alors que la plupart des êtres vivants sur Terre, ceux qui font face à des pénuries, à des fluctuations, donc ce qui est l'essentiel des écosystèmes sur Terre, hein, la mauvaise saison, les gelées, les sécheresses estivales, tout ça, c'est des fluctuations, et bien, ils font des symbioses. Ils font de la coopération. Ils ne sont pas extractivistes. Ils remplacent l'abondance matérielle par l'abondance des interactions. Et donc, c'est vers ça qu'il va falloir aller, hein, évidemment.
Oui, tout à fait. Du coup, on pourrait dire que c'est aussi un système d'équilibrage. Je vais remettre ma caméra. Quand on dysfonctionne ou qu'on se fait la guerre parce qu'il y a de l'abondance, bah, la résultante, c'est qu'on détruit tout. Du coup, l'abondance est moindre. Et puis, ça nous force à retrouver cet équilibre de coopération. C'est ça. Absolument. Un peu l'équilibre des choses.
Exactement. Donc, par exemple, c'est ce qu'on voit chez certains parasites qui, quand ils sont en mode de parasite, bah là, en effet, ils détruisent tout sur leur passage. Et puis, quand il commence à plus y avoir de ressources, ils forment des spores. Et donc, ils restent comme ça, en vie ralentie. Et donc, ils attendent que les ressources se refassent. Et là, hop, ils redeviennent des parasites qui vont tout. Donc, c'est des cycles, quoi. Voilà, ça oscille comme ça. Et donc, le monde vivant n'arrête pas d'osciller entre compétition, coopération. Nous, le problème avec les humains, c'est qu'on est allé beaucoup trop loin dans la compétition. Enfin, on a dévasté les écosystèmes, ouais, comme aucune espèce avant.
Donc là, on arrive donc à un point de bascule, on peut dire. Peut-être encore avant d'aller sur les conséquences que génèrent déjà, d'ailleurs, hein, on peut les observer. Philosophiquement, construire la robustesse, à part survivre plus longtemps, ça sert à quoi?
Alors, il faut bien que je définisse les termes. Hein. La robustesse, c'est maintenir le système stable et viable malgré les fluctuations. Donc ça, D'accord. C'est la définition physique de la robustesse. C'est une forme de robustesse dynamique. C'est que ce n'est pas juste la solidité qui est une forme de robustesse statique, en fait, qui n'existe pas. Enfin, c'est un peu une fiction de l'esprit. Il n'y a rien de statique, hein, dans l'univers. Donc, tout est tout le temps dynamique. Donc, la robustesse, c'est dynamique. C'est maintenir le système stable et viable malgré les fluctuations. Et bien, la robustesse, en fait, ça crée un espace de viabilité. Et donc, en fait, quand on est robuste, on a ouvert les bornes, on a élargi l'espace et donc on a plus de chemins possibles. On a créé les conditions dans lesquelles on peut diversifier les chemins. Alors que quand on fait de la performance, on sait au contraire canaliser, on dissipe le potentiel et donc on réduit les bornes. On devient de moins en moins robuste, de plus en plus spécialisé, de plus en plus optimisé. Et donc, on n'a plus qu'un seul chemin. Et donc, on a réduit le champ des possibles. Et donc, en fait, c'est la dérive sectaire, hein, pour le dire rapidement. Hein. Une dérive sectaire, on ne voit plus le monde que d'une seule façon. On va très, très vite. Tout le monde pense pareil. Donc, il n'y a même plus besoin de communiquer. Hein. C'est très silencieux, hein, les sectes, hein, parce que tout le monde pense pareil. Sauf que ça claque à la fin. Le parasite, on peut considérer, d'un certain point de vue, que c'est une forme de dérive sectaire aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit plus le monde que d'un seul point de vue. On extrait une ressource, et puis quand cette ressource n'est plus là, bah, c'est terminé.
Alors, certains l'avaient déjà vu venir, hein, depuis un certain moment. Il y avait eu le rapport Meadows, qui est souvent cité par toi, par Jancovici, ou par d'autres. Est-ce que c'est inéluctable et que, finalement, c'est comme une équation mathématique, si on continue à faire comme on fait, eh bien, on y est peut-être déjà. Est-ce que tu estimes d'ailleurs qu'on est déjà dans le mur ou qu'on va encore vers le mur? Tu avais parlé d'un premier basculement en 1950, c'était plutôt l'avènement de l'ère industrielle. Et là, est-ce que finalement, moins de 100 ans plus tard, on arrive à un nouveau point de bascule, voilà?
Absolument, et je suis tout à fait d'accord. Et à mon avis, c'est la bonne question à poser. C'est que très souvent, on parle de 2050. Hein, c'est un peu une date comme ça dans l'Union européenne, un peu partout. C'est un peu un point clé, 2030, 2050. Enfin, on parle de ces années futures où il y aura un basculement, il faut arriver à la neutralité carbone avant 2050. Enfin, donc, c'est toujours dans le futur. Alors qu'en fait, quand on regarde bien, le moment du basculement a déjà eu lieu. Et il a eu lieu dans la décennie 2010-2020. Des exemples, le pic de pétrole conventionnel, on l'a passé en 2008. Le pic de tous les pétroles, on l'aurait passé ce pic de tous les pétroles en 2018. Entre 2010 et 2020, il se passe plein de choses. Les capitalisations boursières, par exemple. En 2010, l'essentiel à Wall Street, c'est du pétrole. En 2020, c'est du numérique. Enfin, il s'est passé plein de choses dans cette décennie-là, qui est en fait très silencieuse. C'est pas une décennie, c'est pas comme 14-18 ou 39-45. Ça apparaissait dans l'histoire comme une décennie incroyable. Pourtant, elle démarre avec une crise financière et elle finit avec la crise Covid. C'est exactement le moment où on a tout basculé, enfin, où on est en train de basculer, et c'est aussi la décennie où on a créé les fresques du climat, les ateliers d'automne, enfin, plein d'outils, finalement, pour inverser les choses. Donc, en fait, c'est un moment où, ça y est, ça bascule. C'est aussi la démographie chinoise, par exemple. À partir de 2022, ça baisse, chaque année, la Chine. Donc, en fait, c'est un moment incroyable. Donc, il ne faut pas chercher le basculement dans le futur. Il a déjà eu lieu. Et en fait, on est déjà dans le monde d'après. C'est juste que le monde d'avant s'accroche, parce que les ultra-performants ont encore le pouvoir et ont encore beaucoup d'argent, mais ils sont en train de dévisser. Ça ne se voit pas toujours pour tous, mais c'est en fait ce jeu Evergrande, Boeing, Stellantis, voilà. C'est des tas d'exemples, ou même Netanyahou, on pourrait dire. C'est en fait ce qu'il fait là, c'est évidemment ignoble, mais il y a quand même des résistances. À une époque, il n'y aurait même pas eu de résistance.
Oui, tout à fait. Effectivement, on voit que ça devient de moins en moins tenable. Quels sont les autres indicateurs qui pourraient... Parce que moi, j'entends quand même, moi qui m'intéresse à tous ces sujets, ça fait quand même déjà des dizaines d'années que j'entends cette notion d'effondrement, de fin d'un cycle, de révolution du monde qui émerge. Alors, moi, effectivement, je suis souvent un peu à la marge. Donc, j'essaye des projets, j'ai cofondé une épicerie participative et autres. Donc, j'ai tendance à porter ce genre de message, mais concrètement et dans la majorité, j'ai l'impression que le status quo quand même perdure et que finalement c'est plus parfois un vœu pieux que j'aurais de voir une société qui est plus solidaire, plus douce, plus en harmonie, pour utiliser des termes peut-être un peu naïfs. Qu'est-ce qui peut nous prouver en termes d'indicateurs qu'on est vraiment et que ce n'est pas une lubie de gens bizarres comme moi, qu'on est vraiment dans un changement réel?
Oui, alors il y a, par rapport à la collapsologie, c'est un exemple parfait, ça. C'est ce que disait Baudrillard dans Simulacre et Simulation, la science-fiction n'existe pas. C'est qu'en fait, quand on commence à parler du futur et qu'on fait de la science-fiction, ça veut dire qu'on le vit déjà. Donc, c'est Black Mirror, par exemple. Black Mirror, les premières saisons de Black Mirror, elles sont déjà, c'est du passé maintenant, alors que c'était du futur à l'époque. Les collapsologues, c'est pareil. Quand la collapsologie émerge, c'est exactement dans cette décennie 2010-2020 où on est en train de basculer. Donc, en fait, la collapsologie, ce n'est pas un effondrement futur. C'est le récit d'un basculement en cours. Donc, en fait, on a déjà basculé. Et donc, les indicateurs, je vais prendre un indicateur qui est ponctuel, mais qui est pratique, c'est l'Université de la Terre. Donc, c'est un rendez-vous qui a lieu depuis 20 ans. Il y a 20 ans, c'était une collection de zadistes activistes sous un chapiteau. Aujourd'hui, là, en 2025, ça a lieu à l'UNESCO, dans le 7e arrondissement de Paris. Et dedans, il y a 10 000 participants. La moitié, ce sont des grandes entreprises. Ça, c'est un signe quand même, parce que c'est le même esprit depuis le début. Donc, c'est quand même, là, on voit des changements. Un autre exemple, c'est l'agroécologie. Donc là, en France, on a eu la loi du plomb, là. Il y a des backlash dans tous les sens.
Voilà. Ouais, donc, plus de 2 millions de signatures pour une pétition, je crois.
Voilà, exactement. Donc, c'est 3,5% de la population. On est exactement au seuil où une minorité active est active. En fait, elle peut changer les choses. Et ça, c'est en fait, quand on regarde les chiffres, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser avoir par les backlash temporaires comme ça. Là. La tendance de fond, c'est la montée en puissance de l'agroécologie. En Europe, les surfaces en agroécologie augmentent chaque année. Et ça, c'est inéluctable parce que l'agriculture intensive dépend d'un pétrole pas cher. Ça ne va pas durer éternellement, ça. Et même, c'est même trop cher quand on a un petit paysan, qu'on a des petites parcelles. On ne peut pas faire de l'agriculture intensive. C'est trop cher. Donc, on est obligé de faire de l'agroécologie. Puis d'ailleurs, ils le font avec plaisir parce qu'ils ne sont pas idiots, hein, les paysans. C'est les plus éco-anxieux, hein, les agriculteurs. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Ce n'est pas les bobos parisiens. Hein. C'est les agriculteurs hein, parce qu'ils sont en première ligne. Hein. Et ben, ça, c'est des signes qui montrent que ça bouge. Mais c'est même dans la vie de tous les jours. C'est le tout réparable. C'est le fait que dans les rues des villes, la diversité des véhicules augmente. Donc, on est beaucoup moins dans une pensée canalisante. Hein. Il y a plus de pistes cyclables. Enfin, tout ça, c'est des petits signes. Alors, on peut aussi penser que c'est des marges hein, qui justifient la continuation du monde d'avant, hein, de ce qu'on peut voir sous l'argent, et ça existe. Et donc, c'est là où il y a un statu quo problématique. Mais cette marge, elle grossit chaque année. Et donc, il y a un moment où il y a une bascule. Hein. C'est comme l'exemple que je prends souvent des nuées des tourneaux. Une nuée des tourneaux, c'est un système qui bascule en permanence. Et ben, ce qui se passe, c'est que ce sont les oiseaux à la marge qui contaminent le cœur du système et qui le font basculer. Et donc, c'est toujours comme ça. Hein. C'est la périphérie qui voit les signaux du monde, qui fluctue, voilà, donc qui est sensible à ces signaux-là, et qui va faire changer le cœur qui, lui, est aveugle aux fluctuations. Et donc, ça se passe toujours comme ça. Et donc, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment.
Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut observer? Parce que pour peut-être encore ouvrir les yeux à ceux qui sont au cœur de cette masse d'oiseaux, comme tu dis. Parce que bon, pendant longtemps, on a parlé du CO2, mais c'est très symbolique pour moi ou pour les autres. C'est très mathématique, scientifique. Le CO2, on ne le voit pas. On comprend qu'effectivement, ça peut avoir des liens. Moi, ce qui me parlait beaucoup plus, c'était, par exemple, l'extinction des espèces. Là, dans ma région, ces dernières années, effectivement, il y a des espèces qui sont éteintes. Et je pense que ça, c'est peut-être plus parlant. Donc, sur quel cheval de bataille, si on peut dire ça comme ça? Mais je ne suis même pas sûr qu'il faille se battre, parce qu'en t'écoutant, j'ai l'impression que c'est un peu inéluctable. C'est un mouvement qui se passe, qu'on le veuille ou non. Alors, faut-il avoir une influence? Et si oui, corde tirer?
Alors, c'est inéluctable. Ça, le niveau de fluctuation va augmenter chaque année pendant tout le long du 21e siècle et probablement aussi du 22e siècle. Donc, on va fluctuer, le monde va fluctuer de plus en plus. Donc, ce seront les plus robustes qui vont rester. Et les plus performants, ce sont les plus fragiles et ils vont disparaître. Donc, c'est inéluctable. Et donc, il va y avoir une forme de nettoyage par la fluctuation. Donc, c'est presque un nouveau service écosystémique que nous offrent les écosystèmes. Le niveau de fluctuation va augmenter et donc les très performants, ils vont partir sur Mars, hein, ils vont partir mourir sur Mars, quoi, voilà, pour le dire un petit peu rapidement. Donc ça c'est inéluctable. Mais je ne voudrais pas dépolitiser le discours, parce que si je dis non. Ça et si je m'arrête là, en fait, c'est terrible, parce que ça veut dire qu'on va laisser les ultra-performants faire leurs dégâts, et ça va faire beaucoup de casse. Donc là où il faut se battre, et même je dirais plutôt là où il faut faire des alliances, parce que c'est plus positif, c'est justement pour habiter ce monde robuste et le faire vivre. Et donc ignorer les performants. Donc, dans la nuée d'oiseaux, on va plutôt faire des alliances latérales. Donc, si je suis paysan en agroécologie, eh ben, je vais peut-être m'associer avec des gens qui font de la réparation, des conventions citoyennes, de l'habitat partagé. Donc, ça fait des alliances qui m'en robustent, je pourrais dire, ça fait de la robustesse plurielle, et qui ringardisent le cœur du système. C'est que le cœur du système qui n'a pas compris le monde dans lequel on rentre, ça devient ringard. C'est que, par exemple, prendre l'avion, ça devient de plus en plus compliqué. Passer ses vacances à Dubaï, c'est quand même un signe, enfin, il y a des choses qui ça devient compliqué à justifier, à assumer. Ben ça, c'est culturel. Et en fait, c'est dans la culture. Et donc, je pourrais dire comme ça, la culture, hein, c'est l'art et la politique, hein, quelque part. Et ben, c'est là où il y a quelque chose à faire. Il faut que l'hégémonie culturelle change de camp. Actuellement, on est dans une forme d'hégémonie culturelle au service de la performance, de la monoculture de la performance. Hein, donc, ce n'est pas seulement la monoculture dans les champs, c'est aussi dans nos têtes, hein, la Pax Americana, tout ça. Ben, sortir de ça pour se dire, ben non, on va rentrer dans un monde beaucoup plus divers, beaucoup plus hétérogène, beaucoup plus joyeux, parce que c'est justement très divers, et ça va ringardiser le blockbuster américain, par exemple. Sortir de ça, quoi. C'est quand même, à mon avis, beaucoup plus engageant.
Ben, déjà, rien que le fait de t'entendre parler de ça, ça m'enlève un poids, parce que j'ai tendance, en tant que militant, qu'activiste, à vouloir faire la compétition avec les monstres. Tu en as nommé un tout à l'heure qui va aller sur Mars, par exemple, et ceux qui ont des idées qui vont complètement à côté de ce que moi j'aurais comme vision du monde, c'est-à-dire quelque chose de plus simple, de plus humain, de plus sobre, de plus humble, tout ça, alors que je vois bien que c'est la folie en avant qui prévaut. Et alors, pour rentrer là-dedans, donc ça me rassure que tu penses qu'il n'est inéluctablement, il va y avoir une forme de nettoyage. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé dans les cours que j'ai suivis, que tu donnais notamment à Sator, là, c'est que tu parles de sous-optimalité. Déjà, ça veut dire que si on veut être robuste, il ne faut, pas être parfait, quoi. Il ne faut pas savoir tout faire avec aucune erreur, etc. Et ça, déjà, moi, ça me... Ah, je vais pouvoir dormir un petit peu mieux.
Bien sûr. Bon, on se reconnecte à qui on est, en fait. Hein. Les objets, les êtres qui sont parfaits, ce sont des robots, finalement. Hein. Donc, c'est des êtres morts. Quand on est vivant, on est imparfait. Ce sont les imperfections qui font qu'on est vivant et qu'on vit sur Terre. Les erreurs, hein, c'est ça qui donne la confiance. C'est que si tous les deux, là, on parlait de façon parfaite, sans buter sur les mots, sans se reprendre, etc., je pense que nos auditeurs seraient un peu décontenancés. Ils diraient, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une IA qui parle, qui est derrière tout ça? Enfin, ce serait un peu... Ou alors, on s'endormirait, quoi, parce qu'il n'y aurait pas de vie, hein, finalement. Le fait qu'il y ait des erreurs, ça génère la confiance, et donc ça crée du lien. Si je le dis différemment, un langage qui serait parfait, si on parlait parfaitement, si on communiquait de façon parfaite, ça tuerait le langage, parce qu'il n'y aurait plus besoin de se parler, en fait. Le fait qu'on fait des erreurs, c'est, on a besoin de s'expliquer, de dire oui, là, j'ai pas compris, là, y a un malentendu, il y a un quiproquo, faut qu'on discute. On discute parce qu'on a des définitions différentes. Et le dictionnaire, c'est l'exemple typique. Il y a plein de redondances, il y a plein d'hétérogénéité. C'est ça qui fait que c'est vivant, finalement.
Oui, et qu'on poursuit l'échange. Sinon, ça s'arrêterait. Il n'y aurait plus rien à dire, quoi.
Voilà.
Donc, pourquoi donc cette sous-optimalité, enfin, comment retrouve-t-on cette sous-optimalité dans la nature, par exemple?
Alors, c'est un point vraiment fondamental du vivant. Disons que l'optimum, peut-être l'optimum, alors je vais prendre un exemple hyper caricatural. En général, quand on veut identifier un optimum, on utilise une approche multicritère. Donc, on prend plein de critères. Ça peut être l'eau, l'alimentation, l'énergie, etc. Et puis, on va trouver un compromis. Et ce compromis, ça va nous amener à l'optimum. Et on pourrait penser que c'est ça qu'il faut faire. Il faut chercher un optimum, des compromis comme ça, on va faire l'optimum. Alors, les êtres vivants ne vont surtout pas à l'optimum parce qu'ils ont compris quelque part, enfin, l'évolution leur a permis de sélectionner ce comportement-là. C'est qu'en fait, si on va à l'optimum, c'est très prétentieux parce que l'optimum, ça veut dire qu'on pense avoir pris en compte tous les critères et en plus, on pense que ces critères sont stables dans le temps. Or, on oublie tout le temps des choses, il y a des nouveaux critères qui arrivent, et en plus, ces critères fluctuent en permanence. Donc, il ne faut surtout pas chercher à atteindre l'optimum, il faut prendre des marges de manœuvre en dessous. C'est ça, la sous-optimalité. Et donc, il y a même une théorie économique qui le dit, c'est la théorie de la viabilité. Et ce n'est pas par hasard qu'elle s'appelle viabilité, parce que c'est du vivant, ça. Et donc, les êtres vivants prennent toujours beaucoup de marge. L'exemple typique que je prends dans toutes mes conférences, c'est la température corporelle. L'optimum, hein, si on veut en termes de performance, hein, pour les enzymes, c'est 40 degrés. Hein. Si vous prenez une enzyme isolée en tube à essai, vous allez voir, ça fait une courbe en cloche. Elle augmente en performance, hein, son activité enzymatique. Hein, elle augmente à 40 degrés. Là, c'est vraiment le climax, quoi. Et puis après, quand on augmente, là, par contre, elle se dénature et là, ça baisse, quoi. Donc, on pourrait penser que 40 degrés, en moyenne, hein, c'est la meilleure température pour le corps humain. Sauf que nous, on est à 37 degrés. Et bien, 37 degrés, ça veut dire que nos enzymes, notre système immunitaire n'est pas très performant. Il est sous-optimal. Il n'est pas au maximum de performance, il n'est même pas à l'optimum de performance. On a gardé des marges de manœuvre justement parce que le pathogène de passage, eh ben, il n'est pas là par définition en temps normal. Il arrive, ben, c'est un nouveau critère qui arrive, une nouvelle fluctuation. Et donc là, on va autoriser la performance en montant la température, 38, 39, 40, mais pendant un temps court. Donc là, il y a un moment de performance et après, on revient au niveau sous-optimal. Et ben ça, c'est partout comme ça. C'est partout pour la photosynthèse, pour la respiration, enfin pour tous les processus métaboliques, les processus génétiques, le comportement des écosystèmes, c'est multi-échelle. Hein. Et donc, tout est sous-optimal dans le monde vivant, justement, pour garder du jeu dans les rouages. Ouais. Et ça, ça permet d'être robuste.
Donc, dans une entreprise, bon, maintenant, moi, je suis indépendant, mais dans une entreprise, ils devraient donc arrêter de nous casser les couilles avec leur optimalité et leur performance.
Bien sûr, bien sûr. Alors, Bien sûr, le zéro stock, le flux tendu, ça, c'est du catéchisme performant, c'est de l'idéologie. C'est qu'en fait, c'est ce qu'on apprend encore hein, dans les écoles de commerce, de management, c'est une éducation au monde stable et abondant en ressources. C'est pour habiter un monde de parasites qui exploitent une abondance de ressources. Dans un monde qui n'est plus comme ça, ça n'a plus aucun sens. Donc, il va falloir changer les apprentissages aussi.
Une notion que je voulais approfondir avec toi, c'est celle du gaspillage, parce qu'effectivement, dans les milieux où je suis, c'est une question un petit peu sensible. Il ne faut pas gaspiller. Parce que déjà, tu vois, et c'est là où tu ouvres des portes très intéressantes d'ailleurs. Il ne faut pas gaspiller parce qu'il ne faut pas perdre, il ne faut pas perdre du temps. Mais est-ce qu'en ayant ce discours anti-gaspillage, on ne rentre pas aussi dans une forme d'efficacité? Et puis, on se fourvoie un petit peu. Mais en même temps, je comprends la valeur, hein, faire perdre du temps et de l'argent à des gens, ben voilà, on souhaite l'éviter. Et puis souvent, ce qui fait mal au cœur, c'est par exemple, si tu as cultivé des salades et puis qu'il y en a la moitié qui pourrissent parce que ben, tu as un stock trop grand dans ton magasin, et ben voilà, c'est quelque chose qui, comme ça, humainement, fait mal au cœur. Mais voilà, est-ce que tu peux expliquer un petit peu cette notion de gaspillage, parce que je la trouve super intéressante. Puis il y a un petit point que peut-être je te demanderai, parce que je n'ai pas compris dans l'information, mais vas-y.
D'accord. Ben alors, c'est, en effet, mais c'est un point clé. En effet, c'est justement où là, il y a un peu de friction et ça permet, à mon avis, de réfléchir. Le gaspillage, en fait, il faut revenir à la notion de circularité. La circularité, quand on fait de la circularité, sérieusement, ça veut dire qu'on se place dans les conditions où le gâchis n'est pas un problème. C'est qu'en fait, si on fait de la circularité, les objets en trop qui sont gaspillés nourrissent l'écosystème. Et donc, c'est moins gênant. C'est-à-dire qu'on peut faire du volume quelque part. Parce que ce n'est pas gênant, tout va être circulaire. Mmh. Alors, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire qu'il faut y aller gaspiller à fond. Et voilà, mais c'est juste déjà avoir ça en tête, hein, que la circularité implique qu'il y ait un don en plus pour nourrir les écosystèmes. Donc, actuellement, hein, les sols de nos champs et tout ça sont très pauvres en matière organique, hein, par rapport à ce qu'ils devraient être. Et donc, il va falloir remettre de la matière organique dans les champs. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir les salades. Il y a une partie qui va falloir, les salades ou d'autres, hein, d'ailleurs, mais cette matière organique va devoir repartir dans le sol pour nourrir les services écosystémiques, maintenir l'eau, etc. Mais en fait, c'est une question pour moi, sur la sobriété. Qu'est-ce qu'on fait avec ce mot de sobriété ? La sobriété, je vais le dire en une phrase un peu provoque, la sobriété, c'est un très bel objectif. Ce n'est pas nécessairement une bonne stratégie. C'est-à-dire que si on fait de l'efficacité énergétique, si on fait de l'efficience, si on fait des objets qui sont vraiment très, très sobres, qui gaspillent très, très peu, bah, très souvent, on va faire des objets fragiles, qui consomment peu de matière. On va faire des parois très, très fines. Voilà, et donc, ça, c'est très fragile, ça casse. Et donc, remplacer les produits, en fait, ça va consommer encore plus de ressources. Donc, une sobriété de départ peut générer de l'ébriété. Un autre exemple, c'est l'effet rebond. On va faire des avions qui consomment moins de kérosène, donc on va considérer qu'on va moins gaspiller de pétrole, qu'on va faire de la sobriété. Ben, quand on fait des avions qui consomment moins de kérosène, ça fait des effets rebonds, ça rend l'aviation moins chère, ça génère la filière du low cost, et du coup, ça fait plus d'avions qui du coup consomment plus de kérosène. Donc on commence par la sobriété, ça génère de l'ébriété. Donc comment on fait pour inverser ça ? En fait, il faut déjà réaliser que la sobriété, ce n'est pas le point de départ, c'est le point d'arrivée. Il faut créer les conditions dans lesquelles on génère de la sobriété. Ces conditions ne sont pas nécessairement, elles n'excluent pas nécessairement le gaspillage. Typiquement, si je fais des objets réparables, eh ben, ils seront certainement plus gros, ils consommeront plus de matière, il y aura des plus gros boulons, donc ça va être plus lourd, quoi, quelque part, hein, ça va consommer plus de matière, donc ça ne sera pas sobre à la fabrication. Mais parce que c'est réparable, je vais pouvoir les garder très longtemps, je vais pouvoir les faire évoluer, je vais pouvoir les transmettre aux générations suivantes. Ça va générer de la sobriété. Donc la sobriété, il faut la générer. C'est quelque chose de dynamique, hein, c'est toujours pareil. Hein. Et donc la sobriété, il ne faut surtout pas que ce soit une injonction radicale de départ, hein, parce que ça peut créer des effets rebonds contre-productifs.
Et puis ça fait peur. Aussi.
Oui, en plus, c'est ça embarque pas. Alors que la robustesse, a priori, ça embarque beaucoup plus. Hein. Durer et transmettre, bah, qui ne veut pas être robuste, hein.
Oui, exactement. Et tu prenais cet exemple des animaux donc, qui tuaient peut-être une proie et qui, après, tu disais, il y avait du gaspillage là-dedans parce que 90% de la chaleur, j'ai pas très bien compris parce qu'un animal, il en chope un autre, il le mange, j'ai pas compris le gaspillage du dit animal.
Alors, quand on a... Oui, bien sûr. Alors, un animal carnivore qui mange un herbivore, hein, par exemple, quand il mange cet animal, il va le digérer. Donc, quand il digère, bah, d'ailleurs, quand on mange nous-mêmes, hein, on voit qu'on monte en température, hein, on est un peu rouge, voilà, bah, ça veut dire qu'on est en train de dissiper de la chaleur. Donc, une partie de l'énergie qu'on mange se dissipe, voilà, en infrarouge, en chaleur. Donc, ça part. Hein, et donc là, personne ne va en profiter. Hein, de ça, hein. Et puis, surtout, il y a des excréments. C'est qu'en fait, dans les excréments, c'est bourré de matière organique. Donc, en fait, ce qu'on extrait d'un un carnivore, hein, qui mange un herbivore, ce qu'il extrait de ce qu'il mange, finalement, c'est assez peu. il y a beaucoup de choses qui partent. Hein, donc, soit en chaleur, donc il y en a énormément, beaucoup d'eau aussi qui part, hein, voilà, l'évaporation, et puis aussi les excréments. Et ces excréments sont très riches en ressources. Hein, et ça, c'est vrai pour tout, hein, c'est, y compris pour l'air qu'on respire. Par exemple, quand on respire de l'air, il y a 20% d'oxygène. L'air qui sort de notre bouche, de notre nez, il y a 16% d'oxygène. Donc, on a juste pris 4 points hein, d'oxygène. Donc, c'est très peu finalement. Ce n'est pas très performant. On n'absorbe pas tout l'oxygène qu'on respire dans l'air. Ben, c'est pareil pour la nourriture. Et donc, il y a voilà, un animal carnivore fait 90% de pertes énergétiques. Ça veut dire qu'il ne prend que 10% pour lui. Quoi.
Alors, dans ce cas-là, une façon que j'aurais de réconcilier cette notion de gaspillage, puisque nous, on le perçoit le gaspillage comme quelque chose de très négatif. Ça part dans rien, tu vois. Alors qu'en fait, celui dont tu parles du gaspillage, c'est simplement, j'aurais envie de dire plutôt un partage, c'est-à-dire d'être conscient que il y a d'autres acteurs qui vont pouvoir profiter de ces sous-produits ou de ces surproduits d'ailleurs, ou de ces pertes-là, et peut-être de le présenter plus comme ça. Pour se dire, mais quand je fais quelque chose, voilà, ce qui va rester, ça va être pour qui ? Voilà. Et après ces interactions-là, éventuellement... de pouvoir construire dessus. Enfin, ça, je trouve super intéressant parce que là, on sort d'une limitation quand même. Chaque fois, on doit être prudent, on ne fait pas ça. On se contraint énormément, surtout dans ces mouvements-là où je me trouve pour ces raisons-là.
C'est pour ça que j'utilise le mot de gaspillage, hein, justement pour que ça frictionne. Parce que si je disais juste partage, je suis d'accord, hein, c'est du partage. Ben en fait, on n'irait pas jusqu'au bout du questionnement. Quoi. Si on reste dans le partage, en fait, on va ajouter du partage sur un monde de performance. Et en fait, on va continuer à épuiser les ressources. Hein. Donc, on va faire de la collaboration. C'est le gagnant-gagnant où il y a toujours quelqu'un qui perd. Hein, et c'est souvent les écosystèmes. Donc, en fait, il faut plutôt... Si on va vraiment aller jusqu'au bout de gaspillage, et je suis d'accord, hein, c'est du partage hein, au fond, hein, mais ça veut dire qu'on va repenser typiquement les processus industriels au Danemark. Alors, je ne me souviens plus du nom, là, mais il y a une entreprise comme ça qui s'est conçue de façon complètement circulaire. C'est-à-dire que chaque unité fait un déchet qui nourrit l'usine d'à côté, qui fait un déchet qui nourrit l'usine d'à côté, et tout ça, ça cycle. Donc, c'est comme ça qu'il faut penser. Hein. Et donc, idem pour tous les produits qu'on a autour de nous, là, qui sont bourrés de terres rares, de semi-conducteurs, etc. Il va falloir recarboner l'économie, hein, comme je dis souvent. C'est-à-dire qu'il va plus falloir dépendre du charbon, du pétrole, mais aussi des minéraux. Et donc, il va falloir revenir vers du carbone vert, hein, qui est vraiment circulaire. C'est-à-dire que nos objets devront être biosourcés et compostables. Pour nourrir les écosystèmes. Le téléphone portable, il va falloir dans le futur, on le jettera au fond de son jardin pour nourrir les champignons. Hein. C'est ça l'objectif. Quoi.
Ok. Alors là, oui, effectivement, il y a du travail.
Oui, il y a de la recherche à faire. Oui, tout à fait.
Une autre notion aussi qui m'a interpellé, mais c'est peut-être aussi plus dû à mes croyances, bien que je ne crois pas vraiment en Dieu, mais quand tu parles de hasard comme ça, évidemment, ça me chiffonne un peu, parce que pour moi, il y a une intentionnalité derrière les choses. Puis après, peut-être le hasard construit. J'ai l'impression que, bon, c'est ma vision du monde, hein, mais que c'est l'intention du cœur, de l'amour, peu importe comment on l'appelle, qui va après prendre des chemins pour construire. Et puis, tu amènes cette notion du hasard que, en gros, la nature, elle essaye un petit peu n'importe quoi, puis de temps en temps, ça marche, et de temps en temps, ça ne marche pas. Voilà, je te laisse aussi peut-être recadrer un petit peu cette notion de chance dans le développement de la vie.
Alors, c'est une question philosophique difficile, c'est presque la question de la liberté, mais le hasard se contraint lui-même, c'est ça que je peux dire peut-être. C'est qu'en fait, si on fait des choses au hasard, enfin, si les êtres vivants sont soumis au hasard, et ils sont soumis au hasard, hein, il y a plein de choses, ben, en fait, si ça colle, hein, la solution, l'aléatoire a donné une solution qui finalement a l'air de bien marcher, ben, cette solution qui marche, elle s'installe, elle commence un petit peu à se canaliser, elle va avoir des impacts sur les autres. Ben ça canalise, ben disons que ça va biaiser le hasard pour les autres. Et donc les autres ont un hasard, mais qui n'est pas le hasard total. C'est qu'en fait, il est cadré par ce qui se passe par les autres. Je prends un exemple très trivial de la vie de tous les jours. On pourrait dire que si les bus arrivaient de façon aléatoire à l'arrêt de bus, donc on ne sait pas combien de temps il faut attendre, hein, pour attendre 24 heures, une année ou une seconde. Quoi, hein. Voilà, c'est totalement aléatoire. Donc, ça serait un monde vraiment hyper aléatoire. Donc, c'est un petit peu comme au niveau moléculaire, hein, c'est quasiment ça. Hein. Donc, il y a beaucoup de molécules, donc ça tamponne ça. Hein, mais quand même, il y a beaucoup d'aléatoire. Mais il y a quand même des contraintes. C'est-à-dire qu'un bus, ça a une certaine taille, ça a une certaine vitesse. Et donc, en fait, on ne pourrait pas avoir un bus toutes les millisecondes, par exemple. Ça, c'est pas, même toutes les secondes, ça ne serait pas possible. Donc, en fait, la vitesse du bus, la taille du bus, fait que le hasard n'est pas total. Et ben, c'est un petit peu ça qui fait que il y a du hasard, que ça crée des trajectoires, que ça peut créer des intentions, mais que ces intentions, en fait, ce sont la propriété émergente des contraintes associées au hasard. Alors, je ne sais pas si je suis très clair, mais le hasard n'est jamais total, quoi. Voilà, je peux le dire comme ça.
Oui, tout à fait. Mais ça rend aussi, je trouve, un petit peu joyeux les choses, parce que la surprise fait aussi partie de la vie. Et puis, on comprend bien que, et moi, je le dis souvent à ceux qui présentent des idées, moi, je suis toujours ouvert, même si certains disent « mais t'es fou, on va faire ça ». Parce que tant qu'on ne m'a pas prouvé que ça ne marche pas, j'ai tendance à dire bah, « essayons, regardons ce qu'il en est ». Et du coup, j'aime bien aussi, enfin, ça rejoint quelque chose intuitivement qui me semble juste, que souvent, on trouve des solutions sans avoir fait exprès.
Ah oui, bah c'est la sérendipité, hein, ça c'est le hasard heureux, hein, quelque part. C'est qu'en fait, ça, c'est deux ingrédients. C'est une part de hasard, quelque chose qu'on n'a pas cherché qui arrive. Et puis aussi, le cerveau qui dit, ah bah tiens, là, ça c'est pertinent. Parce qu'en fait, tous les jours, hein, on a des découvertes qui nous passent sous les yeux tous les jours et qu'on ne voit pas. Hein. C'est tous les citoyens, hein. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de général. Mais souvent, on ne le voit pas parce que notre culture, nos biais, notre idéologie, notre état de fatigue fait qu'on ne va pas répondre. On ne va pas voir le truc. Et en fait, c'est ce que je dis souvent et ce que disait même Asimov avant moi. Comment on sait qu'un chercheur a fait une découverte? Très souvent, on pense au Eureka. Hein. On pense que dans les labos, il y a le chercheur qui a trouvé un truc et dit ah, Eureka quoi. Alors, en fait, c'est jamais ça qui se passe. Dans un laboratoire, on sait qu'un chercheur a trouvé ou une chercheuse a trouvé quelque chose d'intéressant quand cette personne dit tiens, c'est bizarre. Ça, c'est le vrai Eureka. Tiens, c'est bizarre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Hein. Ça veut dire que ce qu'on pensait, bah, quand on fait l'expérience, bah, ce n'est pas exactement ça qui se passe. Et si ce n'est pas exactement ça qui se passe, ça veut dire qu'on a raté quelque chose. Et si on a raté quelque chose, ça veut dire que c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle théorie qui est en train d'émerger. Et c'est typiquement sous-optimal. On ne va pas essayer de confirmer. Au contraire, on essaye d'infirmer pour trouver d'autres voies.
Mmh. Il y a des gens dans le chat qui parlent de noosphère. Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Moi, je crois comprendre que la noosphère, ce serait un champ des consciences collectives. Qui peut-être, dans lequel peut-être justement on pourrait aller tirer de la créativité.
Oui, alors il y a, c'est un peu du théâtre de Chardin dans le texte, là, mais c'est alors on pourrait considérer que la datasphère est une forme de noosphère actuellement. Hein, c'est quelque chose, un peu le cloud, hein, quelque part, une sorte de méga cloud. C'est un peu notre conscience dispersée comme ça. Alors c'est une conscience très biaisée, hein, évidemment, avec beaucoup de sexisme, beaucoup de racisme, beaucoup de culture anglo-saxonne. Hein, donc c'est une noosphère extrêmement étroite. Hein. Les peuples premiers sont très peu présents dans la datasphère, par exemple, alors qu'il y a 70 000 langues. Enfin bon, c'est une culture foisonnante. Hein. Bon, ben, donc on pourrait considérer que c'est une forme intéressante parce que ça permet de voir, de lui donner une matérialité quelque part, hein, même si c'est soi-disant immatériel. La datasphère, c'est une première forme de noosphère, mais en effet. Alors, là aussi, c'est une question philosophique très large. Est-ce que la noosphère existe? Je suis très mal placé.
Je veux dire, comment toi tu l'utilises? Enfin, est-ce que c'est une notion qui te...
Oui, c'est pas. Mais par contre, voilà, c'est une notion que j'utilise très peu, à vrai dire. Elle est quand même un petit peu vaporeuse, hein, quand même. Donc, j'essaie de pas trop l'utiliser. Mais par contre, ce que j'aime bien dedans, c'est qu'elle est très systémique. C'est-à-dire qu'en fait, la noosphère, on peut considérer que c'est le produit de nos interactions. C'est que quand les humains interagissent, et même ils interagissent avec les non-humains, tout ça, ça produit des connaissances communes, un esprit commun, des valeurs communes bah, qui rentrent dans la noosphère. Et donc finalement, une forme de synchronicité de l'humanité, comme ça, là, qui partage une culture commune, ça pourrait être ça la noosphère, mais c'est la propriété émergente de nos interactions.
Qu'est-ce qui, toi, en tant que chercheur, t'as encouragé ou t'as poussé à aller comparer une plante avec un modèle sociétal, si je puis dire ça comme ça, ou aller travailler sur ce genre de choses?
Eh ben, une réponse courte, ce sont les artistes, littéralement. Hein. C'est qu'en fait, dans notre équipe avec Reski Boudaoud, enfin avec plein de personnes, hein, c'est toujours des travaux collectifs, hein, tout ça. Donc, on travaille sur la robustesse depuis longtemps. D'ailleurs, c'est Reski hein, qui a été beaucoup qui a beaucoup mis la question sur la table avec d'autres. Enfin, c'est un sujet très chaud en biologie hein, en ce moment-là, la robustesse biologique. On se rend compte qu'on a raté quand même des choses avec le côté programmatique, le tout génétique. Hein, on a quand même un peu raté des choses. Donc maintenant, les approches systémiques nous amènent vers la robustesse. Donc ça, c'était dans mon laboratoire, avec l'équipe, avec les collègues. Et puis, en parallèle, j'étais assez inquiet, comme beaucoup, par l'état de la planète, la question socio-écologique. Et donc, je suis allé à une conférence avec l'Institut Michel Serres à Berlin, qui a duré 10 jours, avec un tiers de scientifiques, un tiers de société civile et un tiers d'artistes. Et c'était, le sujet, c'était l'anthropocène. Donc, très large, toutes disciplines confondues. Et là, en fait, il s'est passé une sorte de déclic dans ma tête. C'est-à-dire qu'en fait, ça a matérialisé quelque chose que peut-être que j'avais en moi, mais que je n'avais pas vu. C'est que, en fait, ce sont les artistes de la conférence, en discutant comme ça, dans les moments où, justement, où il ne se passait pas grand-chose, hein, où il y avait cet espace, voilà, sous optimalité, hein, on crée des espaces où on ne sait pas très bien ce qu'on va trouver. On discute dans les couloirs, voilà, avec les artistes. Et là, les artistes me disent, mais tu sais que ton sujet de recherche et ton anxiété, là, ça se parle. C'est qu'en fait, ta robustesse, ça colle très, très bien avec les sujets socio-écologiques. Et alors moi, ça peut paraître bizarre comme ça, mais à l'époque, je ne le voyais pas, ça. C'est que moi, je me voyais dans mon laboratoire en faisant de la biologie moléculaire et cellulaire, de la biophysique, donc très, très loin de l'écologie. Je ne suis pas un écologue, hein, je fais de la biologie, de la microscopie, quoi. On est très, très loin des écosystèmes. Donc, je voyais ces deux sujets comme étant un peu distants. Et ce sont les artistes qui m'ont dit, mais non, là, t'as un lien. T'as un lien. Et donc, là, déclic, là, quelque part, tiens, c'est bizarre, Eureka, quoi. Voilà. Et après, mais je me suis dit, bon, mais ça, recherche action, quoi. Donc, je sors du laboratoire pour en parler à droite, à gauche, devant des entrepreneurs, devant des associations. Et en fait, à chaque fois, ça a enrichi ma pensée. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces exemples, toutes ces discussions, je me suis dit, bah oui, en fait, cette robustesse, elle se décline. Il y a même des parallèles super marrants à faire avec le système judiciaire, avec le système de santé, avec l'agriculture. Et donc, à force, ça a vraiment été quasiment un programme de recherche ou un projet de recherche parallèle, fait à plusieurs, hein, toujours pareil. Hein, finalement, c'est tout ça. On pourrait considérer que c'est une grande équipe de sciences citoyennes. Et c'est donc ça a débouché sur cette sortie sur la robustesse dans le monde social. Donc, faire le parallèle entre le vivant et le monde social. En tout cas, c'était mon chemin.
Donc, en tout cas, la preuve que, effectivement, ce hasard dont on parlait tout à l'heure, où là, en l'occurrence, c'est aussi de la transversalité, des liens peut-être qui se faisaient moins, apporte. C'est intéressant que ce soit les artistes. Donc, la créativité, enfin, la représentation symbolique, la créativité des artistes, apporte toute cette richesse et puisse te permettre de structurer ta pensée ou de voir quelque chose qu'ils n'avaient pas vu avant.
Alors, j'aurais presque envie de dire qu'ils ont surtout permis de déstructurer ma pensée, c'est-à-dire me faire dérailler. C'est qu'en fait, j'étais dans mon rail de biologiste et puis j'avais mis dans une autre case, dans un autre silo, la question sociologique. Et eux, ils ont mis du jeu dans les rouages. Donc, ils ont fait jouer les deux là et en fait, tac, ça s'est rejoint. Et en fait, c'est un peu ça. Les artistes sont là pour faire du trouble, hein, pour créer du trouble. S'ils posent des questions, ils n'apportent pas des réponses. Ils posent des questions d'abord. Hein. Enfin, ils peuvent aussi apporter des réponses, mais d'abord, ils posent des questions. Et dès qu'on se questionne, on se met dans un autre état et là, on peut faire de la transversalité. Sinon, on reste dans son couloir. Hein.
Ouais, absolument. Et peut-être maintenant pour rapprocher plus le que faire au niveau individuel et au niveau collectif, on sait que les invectives écologiques en général passent mal sur l'individu parce que on n'aime pas le moraliser, ah je me suis moralisé, ah c'est moralisateur, etc. Enfin ça passe très très mal. Je le disais un petit peu tout à l'heure aussi, pour moi un des trucs les plus graves c'est de voir la beauté disparaître, les espèces disparaître. Quelles conséquences ça a ? Je crois qu'on a perdu 80% de la biomasse des insectes, notamment ces dernières décennies. Quelles conséquences ça a, ce qui se passe aujourd'hui ? Et d'entamer maintenant peut-être une discussion sur, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Au niveau individuel, oui, collectif, et peut-être sur d'autres plans aussi.
Oui, alors pour moi, il y a des leviers, notamment en effet identifier le fait que, et là c'est presque du marketing, j'ai envie de dire, mais que le mot social et le mot écologie ne fonctionnent plus médiatiquement. Hein. C'est que quand on dit le mot social, on est islamo-gauchiste, quand on dit le mot écologie, on est punitif. Ouais, donc pour en avoir conscience, c'est malheureux, mais c'est comme ça, on est dans ce monde-là, donc ça ne marche plus. Donc il faut changer l'angle. Enfin, en tout cas, une proposition, ce serait de commencer par le monde fluctuant. En fait, parler du monde fluctuant, ça tangue de plus en plus. Par exemple, les événements climatiques extrêmes en France, leur fréquence a multiplié par un facteur 4,5 depuis 2000. Donc, nous sommes rentrés dans un monde fluctuant. On ne se rend pas compte à quel point ça fluctue, mais en fait, si, on commence à le voir hein, quand même. Hein. Et puis, c'est ce que disent tous les scientifiques pour les années à venir. Donc, ça va fluctuer de plus en plus.
Donc, ça, donc, en fait... Parce que là, j'ai lu une information contraire récemment, mais bon, il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur de ces changements, donc qui vont aller chercher les éléments. Il en existe aussi peut-être pour montrer que, en fait, non, regardez, c'est pas plus. Donc, toi, tu dis, il y a plus d'événements climatiques destructeurs graves aujourd'hui qu'il n'y en avait, ne serait-ce qu'il y a 10 ans.
Entre 1950 et 2000, hein, la comparaison, c'était depuis 2000 et entre 1950 et 2000.
D'accord.
Donc
Ok,
ça c'est
donc.
scientifié, hein. Oui, ça pour le coup c'est un fait scientifique établi, hein. Donc en fait, et puis d'ailleurs on le voit, enfin si on regarde les courbes de la violence des tempêtes, la fréquence des tempêtes, des méga inondations, enfin le Pakistan encore, là, en fait c'est assez évident une fois qu'on a regardé, hein. Mais je peux comprendre aussi qu'il y a un effet de récence et on peut se dire faut faire attention à ça, hein. C'est qu'en fait quand il nous arrive une catastrophe, on a l'impression que ça devient plus fréquent. Alors c'est pas
C'est ça.
nécessairement le cas, sauf que là, bah, en fait vu qu'on a tout quantifié depuis les années 50, c'est quand même bien établi, bien documenté dans tous les sens avec des photos et tout. Enfin, je veux dire, on est vraiment sûr, ça augmente. Hein. Ça c'est ce que dit le GIEC, mais c'est aussi ce que dit le Forum économique mondial de Davos. Hein. Donc autant dire que c'est pas des hippies écolos hein, chez Davos.
Ouais, je crois que ce que j'avais vu, c'était quelqu'un qui disait ça a effectivement augmenté jusqu'en 2000, mais depuis 2000, il y a plus vraiment d'augmentation notable ces 25 dernières années.
Alors
Est-ce
c'est
qu'on peut regarder à si court terme? Peut-être qu'il faut
Oui,
regarder
et puis
sur.
surtout, ce serait quel paramètre, hein, parce qu'il y a eu El Niño, tout ça, enfin, il y a eu des moments où l'augmentation de température, hein, par exemple, c'est un petit peu ralenti, enfin, dans certaines régions, si c'est pas partout. Hein. Donc si on regarde sur des périodes courtes, on peut certainement trouver des tendances inverses. Hein, mais si on regarde sur le temps long, donc depuis 1950, là, il y a vraiment aucun doute. Hein, il n'y a aucun doute. Et puis
Je
en
laisse
Israël.
reprendre le fil. C'était juste la petite parenthèse parce que je vois souvent passer effectivement des gens sceptiques. Et le scepticisme, moi, je ne vais jamais le contrer. Je trouve qu'il est souvent, très souvent, à partir du moment où il est bonne foi, mais hyper important pour avancer. Parce que sinon, effectivement, on nous met un dictateur et puis, bah oui, on obéit, on ne pose plus de questions. Donc là,
Non, bien sûr,
de questionner la question est aussi important, je pense.
absolument. Bah, c'est le scepticisme, c'est au cœur de la méthode scientifique. Hein. Il faut du doute pour être sûr. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de faire des expériences en laboratoire pour aller contre la théorie que l'on défend. Hein. Et quand on est à peu près sûr, on envoie notre article à des pairs qui vont essayer de la détruire. Hein. Donc c'est vraiment c'est au cœur de la méthode scientifique. Le problème, c'est qu'après, il y a des marchands de doute qui vont mettre du doute absolument partout et qui ne font pas la différence entre la recherche et la science. Enfin, faut peut-être le dire comme ça dans la parenthèse. La recherche, c'est de la science en construction, où il y a un débat, où il n'y a pas de consensus et c'est en discussion. Le fait scientifique, c'est on a dépassé le seuil du consensus et là, il n'y a plus de question. La Terre n'est pas plate, quoi. Voilà. Typiquement,
C'est ça.
ça c'est du fait scientifique, c'est plus de la recherche. Il n'y a plus
Oui,
personne
oui. Et puis,
qui travaille là-dessus.
pour, je dirais, trouver qui sont les mauvais acteurs, c'est simplement de regarder quels sont les intérêts. C'est-à-dire que t'as qu'à voir qui aurait meilleur temps que ça change pas. Parce qu'il y a des intérêts, du profit, il y a une reconnaissance derrière. Donc,
Ouais.
ça, à mon avis, voilà, si on met un peu une loupe, relativement facilement, on peut voir. Mais voilà, si tu peux reprendre le fil.
Je reviens donc du coup voilà, on oublie le social l'écologie au départ, on commence par le monde fluctuant, le fait scientifique. Et alors, pour l'avoir fait hein, quand même, ça je vois que ça répond dans tous les secteurs. C'est-à-dire que qu'on soit une entreprise, un entrepreneur, une association, un politique, les fluctuations vu qu'on les vit, mais c'est vraiment quelque chose que l'on vit dans sa chair, hein, et ben on va le prendre ça. Hein. Le monde fluctuant, faut vraiment voilà. On le prend. Donc ça, c'est un point de départ, le fait scientifique, ça permet de sortir des débats, justement, voilà, on est sur la science. Le monde devient de plus en plus fluctuant. Comment on fait dans un monde fluctuant? Il y a un mot qui répond aux fluctuations, c'est la robustesse, par définition. Hein, la robustesse, maintenir le système stable et viable malgré les fluctuations. Donc quand ça fluctue de plus en plus, il faut être robuste. L'exemple typique, c'est quand on construit un bateau, on le construit en général bah, sur la terre ferme. Quand on le met à l'eau, il est au port, c'est une mer d'huile. Et pourtant, ce bateau, on lui met une coque énorme, très très haute. Pourquoi il a une coque énorme, ce bateau? Parce que plus tard, il va être dans la mer, dans l'océan, et là, il y aura des grosses vagues. Donc, quand il y a des grosses fluctuations, on construit un objet qui est robuste, qui est capable de vivre, qui est stable et viable malgré les fluctuations. Ben, c'est ça. Faut plutôt avoir on va plutôt construire des bateaux que des radeaux, quoi. Voilà. C'est le radeau, ça serait très optimisé, hein. Ça serait parfait pour la mer d'huile, ça consomme très peu de ressources, c'est très sobre, hein. Mais par contre, ça casse, hein, évidemment, dans les tempêtes. Hein. Donc, on fait des bateaux. Donc, ça, c'est la robustesse. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Donc, le monde fluctuant, le fait scientifique. La robustesse, c'est de la sémantique, voilà. C'est le mot robustesse. Et donc, la question d'après, et c'est là où il va y avoir du débat, c'est comment on fait pour être robuste? Donc, le bateau, c'est une incarnation, mais comment on fait pour qu'une association, un pays, une région, une entreprise soit robuste? Ben c'est là où
Un
les êtres vivants.
individu aussi? Un individu ou tu
Un
poses pas de
individu, bien sûr.
questions?
C'est à
Ouais.
toutes les échelles, même une cellule d'un individu. Hein. Donc c'est vraiment. Et donc c'est là où c'est extraordinaire. Ben justement, si on prend l'individu, pourquoi un corps humain est robuste? Ben, il y a plein de raisons. Il est sous-optimal. Donc, par exemple, on a un deuxième métabolisme dans notre corps, hein, qui est capable de faire vivre notre corps en jeûnant. c'est qu'on peut passer 15 jours sans rien manger, en buvant de l'eau quand même, mais si on ne mange rien, on va activer un deuxième métabolisme avec des cétones, tout ça, qui vont permettre à notre cerveau de continuer à fonctionner, alors qu'il consomme beaucoup de glucose hein, quand même. Ben là, il n'a plus de glucose, donc il va fonctionner avec des cétones, donc un autre métabolisme. Et c'est complètement différent, hein, c'est un métabolisme qu'on n'utilise absolument jamais. Ben, celui-là, on va l'activer quand on jeûne. Ben, en 2025, il y a très peu d'humains qui l'activent, hein, ce métabolisme. Et pourtant, on l'a tous. En nous, en plus. Donc ça, c'est de la sous-optimalité. Ben, ça, c'est une forme de robustesse. Une autre forme de robustesse, c'est qu'un corps humain, c'est un écosystème. On a un microbiote, on a des bactéries. Il y a plus de cellules bactériennes que de cellules humaines dans un corps humain. Hein. Donc en fait, c'est un écosystème, c'est une forêt, quoi. Hein. Enfin, une forêt bactérienne, mais c'est une forêt. Ben, tout ça, ça apporte des interactions, de l'hétérogénéité, des marges de manœuvre, des tampons face aux fluctuations, etc., de l'immunité, enfin, plein de choses, quoi. Ben, voilà, ça, c'est de la robustesse interne, de la robustesse intime même, hein, c'est de la santé personnelle. Quoi. Ben, cette robustesse-là, elle se décline à toutes les échelles. Après, c'est dans le groupe, dans la société, dans l'association, dans le territoire. En fait, ce qu'il faut, on pourrait le dire comme ça, c'est qu'il faut se réapproprier, et notamment, je pense à la gauche de l'échiquier, il faut, politique, hein, il faut se réapproprier la notion de sécurité. La sécurité a été complètement, chapardisée par la droite et l'extrême droite, et abandonné par la gauche. En fait, la sécurité, c'est devenu une doctrine sécuritaire. Hein. C'est les caméras augmentées, c'est l'hyper-contrôle, c'est de la performance, hein, toujours pareil. Alors, la sécurité, c'est quoi, en fait ? La sécurité, au premier ordre, c'est la viabilité du territoire. Quand on est dans un territoire viable, on se sent en sécurité, parce qu'on sait qu'on aura des aliments, de l'eau saine, une bonne santé, pourra transmettre aux générations futures. Enfin, c'est ça, hein. c'est ça la sécurité. Et ben, pour faire de la viabilité, il faut être robuste, il faut nourrir la robustesse. Et donc, c'est en fait là, seulement à ce moment-là, qu'on va se poser la question du social et de l'écologie. Parce que c'est dans la société, dans le tissu social, qu'on va trouver des formes de robustesse, et c'est dans les services écosystémiques de la biodiversité qu'on va trouver des solutions de robustesse pour le territoire. Et donc, c'est là qu'on les active. Donc, on les met à la fin. Le social et l'écologie, ça émerge parce qu'avant, on a vu le monde fluctuant et la robustesse.
Mmh. Alors, du coup, concrètement, si on va dans... Allez, on prend sa pelle, on va poser des graines. C'est lesquelles pour construire cette robustesse ? On commence par où ? Comme souvent, je sais que c'est une question un peu à la con parce qu'on peut certainement faire plein de choses simultanément. Mais voilà, c'est pour... invité à commencer à parler de, non pas de concept, mais de concret.
Oui, alors la première chose à faire, c'est savoir ne pas faire avant de faire des choses. Donc, de bien avoir conscience de la maladaptation. Typiquement, on va se dire, il nous faut de l'énergie renouvelable. Décarbonons l'économie, on va mettre des panneaux solaires partout. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Agrophotovoltaïsme. On va déforester pour mettre des panneaux solaires. Bah, ça, typiquement de la maladaptation. On est en train de détruire la biodiversité pour produire de l'énergie. Tout ça pour nourrir des usines qui vont faire de l'IA, qui va déforester encore plus. Enfin, c'est le truc, Donc ça, c'est de la maladaptation. Donc, premier critère, ce que je fais, est-ce que c'est au service de la robustesse du territoire ? Si ce n'est pas au service de la robustesse du territoire, eh ben, je n'alimente pas, je n'investis pas, je ne finance pas. Quoi. Je ne m'engage pas là-dedans.
Invitation à la paresse, ça c'est aussi un livre que j'ai beaucoup aimé,
Bien sûr.
Qui l'a écrit, mais c'est ce que tu dis avec d'autres termes. Point un, très concret, très bien, allez prendre l'apéro.
Ouais, pour réfléchir, quoi. Voilà, pour discuter, pour voir, est-ce que ce n'est pas une maladaptation qu'on est en train de faire là. C'est aussi un art asiatique, hein, l'art de ne pas faire, hein, the art of not doing au Japon, ça. C'est une pensée philosophique qui est, attention là, on se pose pour bien réfléchir. Et penser aux effets rebonds, aux effets systémiques. Et puis la deuxième chose, c'est que si on fait quelque chose, bah par exemple, je vais mettre des panneaux solaires sur mon toit, je vais rester sur les panneaux solaires, hein. Est-ce que ce n'est pas un peu, là pour le coup, un peu petit bras ? Est-ce que je vais juste produire d'énergie ou est-ce que je ne peux pas en faire quelque chose de beaucoup plus systémique ? Alors là, bah, je peux renvoyer par exemple à une entreprise, mais c'est même un consortium avec des gens très engagés qui s'appelle See You Sun. Ils sont basés à Rennes, en Bretagne. Eux, en fait, ils ont bien compris que quand on met des panneaux solaires, bah, faut pas seulement mettre des panneaux solaires. Il faut aussi récupérer l'eau de pluie. Et puis, si on produit l'énergie, bah, cette énergie, plutôt qu'elle soit récupérée individuellement, peut-être qu'elle peut être au niveau d'un collectif. Et donc, elle peut être socialisée. Et du coup, les gens vont se parler parce qu'ils partagent de l'énergie. Et du coup, on va faire des projets communs parce qu'on partage la même énergie. Et donc, ça a des vertus sociales, écologiques, ça peut nourrir la biodiversité locale. Et donc, le panneau solaire qu'on a installé, ce n'est pas juste bêtement un truc réductionniste performant qui fait de l'énergie. C'est quelque chose qui est peut-être moins performant parce qu'il a plein d'autres choses, il a plein d'autres activités. Il va peut-être nourrir des vélos, mobilité locale, etc. Mais ça va faire du lien social. et du lien aux écosystèmes. Et bien là, on fait de la systémique, et ça, c'est robuste. Voilà. Donc, en fait, c'est se poser ces questions-là. Quels autres liens je peux faire? Voilà. C'est peut-être la deuxième étape, c'est si je fais quelque chose, jusqu'où, quelle densification des liens je peux créer.
Et là, on peut s'inspirer du champignon. Il y a beaucoup de gens qui parlent de champignons. Alors, je ne sais pas quel type de champignon dans le chat, je ne lis pas tout. Mais effectivement, on sait que le champignon, dans un système de forestier, par exemple, a un rôle assez important. Donc, c'est commencer à regarder avec qui on peut collaborer, en gros.
Exactement. En fait, c'est penser au réseau d'interaction. Le champignon, alors Marc-André Selosse en parle bien mieux que moi. Hein. Je vous renvoie à Jamais Seul, par exemple, son livre qui en parle beaucoup. En fait, on se rend compte que si on compare les effets d'inoculation de champignons, enfin, surtout de mettre des plantes qui accueillent des champignons, qui accueillent d'autres plantes, etc., enfin, tout ce réseau d'interaction-là, ben, d'un seul coup, on se rend compte qu'on a des résistances aux pathogènes bien plus fortes qu'avec des pesticides. Le pesticide, c'est la solution clé en main, performante, mais qui génère des tas, voilà, maladaptations, hein, toujours pareil, qui génère des externalités négatives. Les symbioses, hein, typiquement, avec les champignons, ça fait des choses incroyables. Hein. Ça peut même faire ce qu'on appelle la mixotrophie. La mixotrophie, c'est quand... on se balade en forêt et puis d'un seul coup, on tombe sur une plante toute blanche. Donc, on se dit, bah, là, compliqué, elle ne fait pas de photosynthèse, elle n'a pas de chlorophylle, quoi. En fait, c'est une plante qui est branchée sur un réseau de champignons qui est lui-même branché sur d'autres plantes. Et donc, cette plante, en fait, ne fait plus de photosynthèse parce qu'elle est alimentée par le réseau de champignons. Et puis, si on lui coupe le réseau, elle va reverdir et faire de la photosynthèse. Hein. Donc, en plus, c'est optionnel. Bah, voilà, ça, il peut se passer ça, quoi.
Excellent. Et ça me fait penser à cette question de pourquoi les plantes sont vertes. Je ne me suis jamais posé la question avant. Et du coup, tu l'expliqueras mieux que moi, évidemment. Mais là, il y a une intelligence aussi un petit peu insoupçonnée derrière cette raison-là.
Oui, alors, et d'ailleurs, pour bien définir l'intelligence, pour moi, c'est la capacité d'adaptation. Hein. C'est l'adaptabilité. Ah ouais.
Ouais. Donc, la robustesse, pour toi, est une forme d'intelligence.
Ah, carrément. Et donc, quand on parle de plantes intelligentes ou tout ça, ce n'est pas de l'intelligence au sens comme nous, on peut l'entendre. Hein. C'est vraiment une capacité d'adaptation. Et donc, voilà, pourquoi les plantes sont vertes en fait, c'est, je vais revenir à mes panneaux solaires, du coup. C'est un peu le hasard, mais le panneau solaire est noir hein, parce qu'il doit capter, il doit absorber toute l'énergie solaire, donc tout le champ, hein, tout l'arc-en-ciel, hein, voilà, toutes les couleurs de la lumière du soleil, hein, et les plantes sont vertes. Donc, nous, quand on fait des panneaux solaires, ils ne sont pas verts, hein, ils sont noirs. Donc, si les plantes sont vertes, ça veut dire que les plantes absorbent une partie de l'énergie solaire, mais pas tout. Et en fait, elles absorbent les extrêmes de l'arc-en-ciel, hein, donc le rouge et le bleu. Et puis tout ce qui est au milieu, là, donc ce qui est vert dans l'arc-en-ciel, eh ben, le reflète comme un miroir et donc elle ne l'absorbe pas. Et donc là, il y a un gâchis énorme d'énergie. Eh ben, alors, donc du coup, c'est une hérésie. Hein. Enfin, d'un point de vue performance, enfin, un contrôleur de gestion dirait, mais c'est n'importe quoi ça, le tableur Excel, là, on a accès à plein d'énergie gratuite et on ne la prend pas. Pourquoi on fait ça? Eh ben, alors, la réponse a fini par venir, c'est un long travail, c'est de la physique quantique, voilà, donc ça dépasse mes compétences, hein, très clairement. Mais en deux mots, les plantes sont vertes parce qu'elles doivent gérer des fluctuations lumineuses. En fait, dans une journée, dans une année, il peut y avoir des pics lumineux. Et quand il y a des pics lumineux, si la photosynthèse est trop performante, la plante va chauffer et va brûler. Donc, pareil, sous optimalité, elle se met dans les conditions où elle ne brûle pas. Et donc, elle n'accepte pas tous les photons. Et donc, comment elle se protège? Eh bien, en étant verte, justement, donc en absorbant le rouge et le bleu. Et puis, ces deux pics d'absorption, ils sont éloignés dans l'arc-en-ciel. Hein, c'est les deux extrêmes de l'arc-en-ciel. Et donc, ça, c'est là où ça demande plus de complexité physique quantique. Mais quand les pics d'absorption sont éloignés, ça autorise encore plus les fluctuations lumineuses. Donc, en fait, on a un tampon, hein, finalement, entre les deux. Et bien, c'est ça qui explique, enfin, en tout cas, une des raisons profondes qui explique pourquoi les plantes sont vertes. Ça, c'est une des explications. Donc, les plantes se construisent sur les fluctuations lumineuses. Elles n'essayent pas d'optimiser. Au contraire, elles désoptimisent pour vivre avec les fluctuations. Et puis après, il y a plein d'autres raisons. Hein, parce qu'après ça, il y a aussi des enzymes qui ne sont pas très performantes, mais qui du coup permettent d'autres fonctions. Enfin bon, c'est tout un réseau, c'est évidemment très complexe. Mais c'est un des paramètres, c'est les fluctuations lumineuses.
Mais je trouve chouette parce que ça rend un peu magique la chose quand on commence à imaginer qu'effectivement, derrière, il y a une réflexion. Alors peut-être, Marc, mais je ne sais pas trop quel mot utiliser pour quand c'est des plantes, mais je trouve ça assez illuminant d'entendre ce genre d'histoire, en fait. Et puis, ça peut évidemment nous apporter des formes de réponses pour nous-mêmes aussi. Il y a un courant qui a essayé de s'adapter, ça s'appelle les survivalistes, face aussi à ces théories, cet effondrement qui vient, qu'on voit pour ceux qui observent effectivement à la marge, peut-être plus facilement. Le survivalisme, est-ce que c'est une forme de robustesse? Je sais déjà la réponse.
Oui, oui. Ben alors, je vais faire une réponse nuancée. Il y a du survivalisme performant et du survivalisme robuste, j'ai envie de dire.
Ah, comme tout.
Le survivalisme qu'on connaît mieux, c'est du survivalisme radical, où on va dans son bunker avec des steaks congelés dans des lyophilisés, enfin, des trucs complètement dingues. Donc ça, évidemment, c'est très performant, parce que là, on s'est mis dans une dystopie totale, effondrement, on va se mettre dans son bunker. Souvent, c'est des bunkers qu'on wifi, d'ailleurs, on peut se demander un peu à quoi pensent les gens. Hein. Enfin, voilà, je crois que c'est... le patron de Meta, maintenant j'ai oublié son nom là, Zuckerberg, il a le Wi-Fi dans son bunker. On se dit, mais vraiment, ce gars-là, s'il y a un effondrement, du coup, pourquoi le Wi-Fi continuera à fonctionner? Ben, bref.
Mais donc, c'est intéressant qu'il ait un bunker déjà.
Oui, oui, ah, bien sûr, il est à Hawaï, son bunker. En plus, on peut se dire, mais s'il y a bien un endroit où il ne faut pas mettre un bunker, c'est... Ben, bref. Ceux qui font des bunkers, c'est très clair. Qu'ils ont des projets de mort. Hein. C'est que le bunker, c'est un tombeau. Hein. Pour des tas de raisons, c'est que ce n'est pas viable, un bunker, par définition, parce que là, on perd les interactions avec le reste du monde, humain et non humain. Et surtout, un bunker, c'est donc un stock de ressources. Si dans la région où il y a le bunker, on manque de ressources, c'est donc un supermarché qui est très attractif pour ceux qui sont restés en surface et qui chercheraient des ressources. Donc le bunker, c'est vraiment le dernier l'endroit où il faut aller, hein, très clairement. Hein. Enfin, un bunker, ça n'a de sens que de façon très transitoire. Hein. C'est l'abri atomique, quoi. Voilà, comme en Suisse, hein, d'ailleurs. Voilà. Quand il y a une explosion atomique, oui, il faut aller dans le bunker. Quand les Russes bombardent l'Ukraine, oui, il faut aller dans le bunker. Mais on n'y reste pas dans le bunker, on ressort après. Donc ça, c'est la vie dans le bunker, c'est la mort, hein, très clairement. Ben, en fait, c'est le survivalisme extrême, c'est ça, c'est un projet de mort. Donc en fait, c'est complètement paradoxal, parce que ça s'appelle survivalisme, c'est une école de la mort. Mais dans le survivalisme, il y a des choses qui peuvent être plus intéressantes, des gens qui en fait se disent, comment je vais faire pour que mon territoire puissent vivre dans ce monde fluctuant. Et donc, dans les survivalistes nettement moins radicaux, il y en a certains, hein, se disent survivalistes, mais en fait, ils font beaucoup de tissu social, ils entretiennent des écolieux, des tiers-lieux, du lien social, etc. Et donc, en fait, ils utilisent le même mot. Hein. C'est pour ça que je nuance là, parce qu'en fait, certains pourraient se sentir épinglés, alors qu'en fait, ils devraient changer de mot. Quoi. Voilà, ce serait mon conseil. Appelez-vous plutôt les robustes que les survivalistes, quoi. Ça serait... Parce qu'en fait, quand on est robuste, hein, on ne survit pas. Hein. La survie, c'est du transhumanisme. Hein. Survie. Hein. On essaie de vivre encore plus, quoi. Quand on est robuste, on vit, tout simplement.
Excellent. Alors, ce que j'entends, premier point, prendre du recul, c'est important. La coopération, c'est important. Après, moi, je pense peut-être la créativité, essayer des nouvelles choses ensemble avec ces nouveaux liens. Voilà, si on continue à construire, quels éléments on pourra encore...
Oui, alors un autre élément, ça serait, je vais revenir à mon histoire de circularité, donc de bien la penser, c'est-à-dire que, je vais prendre des exemples. C'est l'exemple que je prends très souvent, mais il y en a plein d'autres, hein, si peut-être on parlait des champignons, les mycomatériaux par exemple, hein, les mycomatériaux, c'est des matériaux qui sont faits à base de champignons. Donc par exemple, aujourd'hui, on sait faire des cuirs de chaussures, hein, par exemple, ou de sacs qui sont faits à base de champignons, et c'est des cuirs qui sont compostables. Donc ça veut dire que non seulement on va prendre soin de la santé animale quelque part, des champignons, et puis en plus ces champignons, si on veut aller un cran plus loin dans la systémique, on va les nourrir avec des déchets organiques, qui sont peut-être même du cuir compostable. Donc là, on est vraiment complètement circulaire. Donc il y a par exemple une boîte qui s'appelle Fungus Sapiens qui le fait, ça. Donc ça, c'est du cuir vegan totalement circulaire. Et là, on est vraiment dans la robustesse. Mais oui, on va jusqu'au bout du raisonnement. Si on fait de la robustesse, il faut vraiment aller vers une forme d'autonomie active dans le territoire. Et donc là, si on est circulaire, là, ça marche super bien. Mais il y en a plein d'autres, hein, des exemples comme ça.
Oui. Le prix de la non-robustesse, c'est quoi? Parce que dans le titre que j'ai mis à cette vidéo pour changer un peu des autres, parce qu'effectivement, ta voix porte et puis on te voit... Enfin, tu travailles beaucoup, quoi. Puis, il y a beaucoup d'occurrences d'Olivier Amand. Donc moi, j'ai mis « s'adapter ou mourir ». Et effectivement, parce que j'ai l'impression que si on résiste trop longtemps, eh bien en fait, on construit notre propre destruction, à contrario.
Exactement. En fait, la robustesse, c'est vivre avec les fluctuations. Et la performance, c'est slalomer entre les fluctuations. C'est ce qu'on pourrait appeler l'agilité. Hein. Très souvent, notamment dans le management, on parle beaucoup d'agilité. Ça veut dire que, alors l'agilité, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a compris que ça fluctuait hein, quand même. Hein. Quand il faut être agile, par définition, ça veut dire que c'est plus la grande avenue toute droite avec le flux de pétrole qui arrive. Il va y avoir des pénuries, il y a des crises Covid, etc. Donc on slalome. Mais quand on slalome, eh ben, il y a un moment, il y a un mur qui se lève hein, qu'on n'avait pas vu venir et on se plante. Et donc là, c'est là où on meurt. Donc en fait, il ne faut pas être agile dans le monde fluctuant, il faut être adaptable, toujours pareil. Être adaptable, c'est plutôt le couteau suisse, pour faire un petit parallèle. Le couteau suisse, c'est, on est jamais parfaitement adapté. Le tournevis du couteau suisse, ce n'est pas le meilleur tournevis de la gamme hein, des tournevis. Mais bah, il fait plein d'autres choses, le couteau suisse. Donc en fait, ça permet d'être adaptable. Et donc en fait, c'est plutôt ça. Quoi. La robustesse, c'est vivre avec les fluctuations et construire dessus. Donc c'est pour ça que c'est assez joyeux, parce que le monde fluctuant qui vient, il est là. Et puis, ça va fluctuer de plus en plus. Si on ne voit que ça, bah, c'est terrifiant si on est dans la performance. Parce que c'est ça, le risque fait peur dans le monde performant. Parce qu'on a tellement tout optimisé qu'on ne sait plus faire qu'une seule chose. Et donc là, on se dit, bah, ça ne va pas être tenable. Et en effet, ce n'est pas tenable. Si on est dans la robustesse, on a plein d'autres champs. Et donc, c'est ce que tu disais, hein, sur la créativité, on en ouvre d'autres champs. Et donc là, bah, c'est au contraire, ça va être l'occasion de lancer des nouveaux projets. Quoi.
Et aussi, de remettre un truc fondamental, c'est le droit à l'erreur. C'est-à-dire beaucoup, en Suisse, c'est très fort ça. On pointe du doigt celui qui a fait faux assez vite. Je le sais parce que j'essaye souvent des trucs, puis des fois ça ne marche pas. Ben, je vois directement la pluie qui me tombe dessus. Je me rappelle d'un exemple assez frappant pour ça. J'avais à l'époque, je faisais du football et puis j'avais vendu ma voiture. Et puis, je disais, ben, c'est pour des raisons écologiques, économiques aussi. Ça, c'est la conséquence, mais écologique, parce que pour moi, c'est important de préserver la planète, blablabla. Évidemment, ils en rigolaient. Et puis, vient un match qui a lieu un petit peu plus loin. Et tu vois bien ce qui est arrivé. Je dis, hé les gars, il y en a un qui peut me prendre sur le chemin, là. Et bam, il paraît que tu es un écologiste. Et puis maintenant, tu profites des autres. Et puis, j'ai pris bam. Puis, ça a toujours été un petit peu comme ça. Donc, on voit bien qu'il y a une forme de résistance. Et pour ceux peut-être qui, comme moi, voudraient essayer autre chose, mais ils se rendent bien compte qu'on les attend au tournant. Donc, c'est aussi ce droit à l'erreur ou à l'imperfection, il doit être revisité. Et on doit, je dirais, être vachement plus bienveillant face à ceux qui essaient des trucs, même si on estime que ces trucs, peut-être ils sont inutiles ou ils ne vont pas dans le bon sens, ou ils sont voués à l'échec, etc. Mais c'est aussi une forme d'humanité qui doit revenir en ce sens-là, quoi, de s'accepter dans nos différences. Quoi.
Absolument. Et même, on pourrait même, j'adore la sémantique, hein, c'est pour ça que j'aime bien les mots. L'erreur, une erreur, c'est une construction sociale. C'est qu'en fait, une erreur, c'est parce que ça ne répond pas à la norme sociale du moment. Par exemple, ne pas avoir de voiture au 14e siècle, c'était probablement pas une erreur. Aujourd'hui, ça peut être considéré comme une erreur. Donc, c'est aussi une erreur. Il faut plutôt poser la question de dans quel contexte on considère que c'est une erreur. Et donc, plutôt que parler de droit à l'erreur, on pourra parler de droit à l'errance, sans jouer sur les mots. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, se dire, est-ce qu'on n'a pas le droit de choisir d'autres chemins? Et c'est là où c'est robuste. Parce que si on ouvre, si on a de plus en plus de gens qui ouvrent d'autres chemins, on aura d'autant plus de cordes à notre arc. Et donc, dans un monde qui fluctue, on aura toute cette capacité à répondre hein, à un monde qui change tout le temps.
Tu m'as fait rire, j'ai lu l'autre jour, apparemment les pratiques du sommeil étaient différentes il y a quelques décennies, peut-être un peu plus, quelques siècles, où comme on dormait avec le soleil, donc au nord, les gens allaient se coucher tôt, puis du coup, ils dormaient en deux fois, vers minuit, ils se réveillaient, et puis ils avaient un peu des activités sociales, on retrouvait des traces de ça, et puis la norme, c'était d'avoir un sommeil en deux temps, alors qu'aujourd'hui, c'est plus une question ce qui se pose, on se couche beaucoup plus tard, parce que l'électricité, parce que mode de vie. Et je trouve effectivement intéressant de parfois retourner en arrière pour re-questionner cette normalité, comme tu l'as dit, et puis peut-être peut émerger de la nouveauté. Et là, il ne faut pas tomber dans le piège, et c'est aussi une invective ou une critique qu'on fait facilement aux écologistes, c'est de vouloir revenir à l'âge de pierre, tu sais.
Oui, alors c'est là où en fait, c'est toujours une spirale. Hein. On va peut-être réactiver des choses anciennes, de l'agroécologie, des choses anciennes, mais ce ne sera jamais la même chose. On va l'hybrider avec tout ce qu'on a appris entre-temps. Donc, c'est plutôt une spirale. Donc, ce n'est pas un cycle où on revient systématiquement en arrière. C'est une spirale. Et puis, alors, sur le sommeil, en effet, j'ai entendu la même chose. Alors, je ne suis pas du tout un expert du sommeil, mais j'ai entendu la même chose. Et donc là, le sommeil, c'est un exemple parfait pour montrer aussi les dérives du monde de la performance. On a, par exemple, on impose à tout le monde, finalement, hein, les enfants, les ados, les adultes, d'avoir cette fenêtre de temps où on dort. Hein. On va dire que c'est entre 20h et 8h, quoi, hein, je sais pas, pendant la nuit, quoi, hein, grosso modo. Bon, ça, grosso modo, ça fait sens. Hein, la nuit, voilà, y a moins de lumière et moins d'activité. Bah, sauf qu'un enfant, il va dormir, sa physiologie va le faire dormir, bah, déjà faire des siestes dans la journée, bon, ça, on fait encore ça, mais voilà, il va se coucher tôt, mais il va aussi se lever tôt. Mais il va faire une longue nuit. Un adolescent, sa physiologie fait qu'il va avoir sommeil plutôt vers minuit et il va avoir beaucoup de mal à se lever le matin. Mais ça, c'est physiologique. C'est les hormones, c'est tout ça. Il ne peut pas vraiment lutter contre. Hein. C'est grand. Et puis, quand on est adulte, et ben là, on revient à peu près vers voilà, les, on va dire, 8h, 20h, la fenêtre là où voilà, on peut dormir 6, 8 heures dans cet intervalle-là. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a standardisé les horaires pour les écoles, hein, sans tenir compte absolument de ça. C'est-à-dire que c'est les mêmes horaires pour un enfant qui est à l'école primaire, en maternelle, ou au collège ou au lycée. Enfin, alors qu'en fait, la physiologie de l'enfant change. Et donc, on devrait aménager les horaires par rapport à la physiologie de l'enfant. Enfin, c'est complètement débile d'imaginer que les enfants, à 8 heures du matin, sont bien réveillés pour prendre des cours. Enfin, ils doivent se faire violence contre leur corps. Et pour en plus, apprendre des choses où leur cerveau est mobilisé. Donc, en fait, c'est très, très dur. Donc, c'est typiquement le monde de la performance où on standardise, tout le monde doit faire pareil, et en fait, c'est contre-productif.
On normalise. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup cette idée de la spirale dynamique. Je ne sais pas si tu connais Claire Graves, hein, qui avait fait cette théorie de la spirale dynamique que j'aime beaucoup, qui me parle beaucoup, sur laquelle je me suis beaucoup appuyé, et qui effectivement montre que chaque fois qu'on intègre quelque chose, d'une vision du monde ou d'une évolution depuis qu'on existe en tant qu'humain, ou peut-être même avant, hein, et qu'on arrive à la transcender, eh bien, on devient plus conscient, plus mature, et puis c'est l'évolution de la vie. Et c'était la première fois hein, que, quand j'entendais tes conférences, que j'entendais ce mot robustesse, mais je trouve qu'il va très bien à l'intérieur de ça. C'est-à-dire qu'on cesse de critiquer ce qui est pour revenir au passé, mais on va porter un regard, je dirais, intelligent pour se dire, mais dans ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on veut garder, préserver, nourrir, et qu'est-ce qui nous ressemble, et à contrario, de quoi on veut se débarrasser, qu'est-ce qu'on veut plus, qu'est-ce qui nous pose des problèmes, de la souffrance, peu importe, et puis d'essayer de préserver ça, en fait, sans... comme dit-on, jeter le bébé avec l'eau du bain. Et j'entends cette intelligence dans la robustesse qui me fait plaisir d'entendre sous encore un angle différent, et je t'en remercie vivement.
Oui, bah, je peux peut-être donner un exemple comme ça pour illustrer, là, que j'aime bien citer, c'est l'exemple d'Arnaud Créteau, c'est un ingénieur énergéticien et qui a fait une boulangerie solaire, donc avec un four solaire, donc des miroirs. Hein, voilà. Quand on fait une boulangerie avec un four solaire, bah, déjà, on ne fait pas cuire son pain la nuit, hein, par définition, hein, c'est le jour. Donc déjà, on doit déconstruire ce que c'est qu'une boulangerie, hein, c'est pas la baguette du matin, forcément. Et puis en plus, il est à Rouen, en Normandie, donc un endroit où il n'y a pas tout le temps du soleil. Donc il a vraiment dû repenser son modèle avec une source fluctuante. Alors, un four solaire, on pourrait considérer que c'est très ancien, hein, c'est, voilà, le soleil, c'est la source d'énergie première, hein, finalement. Mais sauf que là, lui, ça lui a permis de questionner toute l'histoire de la boulangerie. Et donc, notamment, s'il fait son pain en journée et qu'il ne peut pas le faire tous les jours parce qu'il n'y a pas du soleil tous les jours, il ne va pas faire des baguettes qui sont rassis au bout de 24 heures. Il va faire du pain au levain qui dure plus longtemps. Comment on fait du pain au levain? Certainement pas avec les levures de boulanger qu'on a sélectionnées au XXe siècle, hein, qui sont très performantes, qui lèvent la pâte très rapidement. Mais en fait, on prend des levures plus anciennes, donc c'est là où on va réactiver des choses plus anciennes qui mettent 5 heures pour faire monter la pâte. Mais quand on utilise des vieilles levures, des levures moins performantes, on n'a plus besoin de pétrir le pain. Parce que si ça met 5 heures à monter, le gluten a le temps de se reconnecter et il n'y a plus besoin de pétrir le pain. Donc il ne pétrit pas sa pâte. Donc en fait, il fait cuire son pain le jour, du pain qui se conserve longtemps avec des levures moins performantes. Tout ça, qu'est-ce que ça produit? Ça produit la boulangerie la plus robuste de France, certainement, parce que sa source d'énergie est gratuite et il a construit tout son modèle économique sur les fluctuations de l'énergie, qui est le paramètre le plus déterminant pour une boulangerie, pour sa rentabilité, pour sa pérennité. Et donc, en fait, là, il a réinventé quelque chose. Et donc là, c'est une forme de spirale parce qu'il a compris en fait que l'innovation n'était pas technologique, elle était culturelle. D'abord, au premier ordre, il faut d'abord déconstruire ce que c'est qu'une boulangerie. Et donc, c'est une forme de spirale dans ce sens-là. C'est qu'il n'est pas revenu au comment on faisait du pain au 19e siècle. Il a réactivé des choses du 19e siècle, mais il les a hybridées avec son parcours d'énergéticien, avec le four solaire, voilà, dernier cri, etc. Mais par contre, il s'est posé les bonnes questions. Et là, on fait de la robustesse.
Merci d'amener ces exemples-là. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est super important. Il doit y exister aussi, hein, des endroits où on essaie de mettre toutes ces propositions nouvelles, toutes ces expérimentations. Mais c'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est aussi une invitation de ce podcast. C'est d'aller regarder à la marge, comme tu l'as très bien pris avec l'exemple des oiseaux. D'ailleurs, c'est majestueux quand tu regardes, je ne sais pas comment tu appelles ça, mais un banc d'oiseaux ou un banc de poissons ou une nuée d'oiseaux, comme ça, de voir cette intelligence collective œuvrer ensemble sans se parler ou sans utiliser ce que nous, on considérait comme obligatoire, c'est-à-dire de se coordonner, d'être sûr qu'on a bien compris, etc. Mais ça se fait de manière très, très belle, très naturelle, très fluide, quoi.
Il y a un mot, hein, pour ça qui est très beau, d'ailleurs, c'est la murmuration. Donc, en fait, en effet, il y a très peu de communication, hein, et c'est quasiment une communication non-verbale. Enfin, on pense que c'est une communication non-verbale. En fait, quand un oiseau qui se déplace un petit peu va entraîner les autres. Alors, il y a certainement un peu de communication orale aussi, hein, mais c'est beaucoup du non-verbal. Et en fait, ça c'est typiquement, c'est de la communication sous-optimale, parce que la communication non-verbale, elle n'est pas très précise. Bah, nous, quand on se dit bonjour, au revoir, OK, c'est pas au centimètre près, quoi. C'est à peu près, mais on comprend. Parce qu'on a autorisé du jeu dans les rouages, et donc c'est robuste, quoi. C'est toujours pareil. C'est pareil pour les murmurations, et c'est très beau, justement, en effet.
Une question redondante, on va gentiment terminer l'entretien. Une question redondante que je pose à la majorité des gens qui viennent, c'est comment ils se renseignent, comment ils acquièrent leurs connaissances. Est-ce que c'est par l'expérience? Est-ce que c'est par des médias? Enfin voilà, c'est où leur source d'informations?
Alors moi, c'est un mélange, mais comme je pense pour beaucoup, hein, c'est un mélange alors, des médias, des podcasts, des vidéos, mais aussi des médias au sens général, hein, des livres. Il y a quand même le travail littéraire. Enfin, c'est souvent les livres, hein, sont un peu... les livres ont toujours du succès, hein, quand même. Ça dit des choses, hein, quand même. Mais c'est quand même des synthèses. Hein, donc, c'est quand même une richesse incroyable d'avoir accès à des livres, hein, parce qu'on a des gens qui ont vraiment pris du temps pour laisser sédimenter leurs idées, pour les retravailler, etc. Donc un livre, c'est toujours il faut prendre ça comme un petit joyau, hein, finalement. Hein. C'est quand même des personnes qui ont pris du temps pour essayer de cristalliser quelque chose, quoi. Donc ça, c'est vraiment une super source d'information. Mais une autre, c'est beaucoup l'expérience, c'est-à-dire beaucoup les échanges. Et donc c'est ce que je racontais avec mon histoire de conférence à Berlin, là, et ce qui a suivi. Finalement, ce qui m'a beaucoup construit, c'est les interactions, ben justement avec tous ces gens-là, avec Arnaud Créteau de Néoloco et compagnie, quoi. C'est à chaque fois qu'on rencontre des personnes qui sont soit alors complètement dans l'ultra-performance et qui ne vont jamais en dévier, soit au contraire très avancées dans la robustesse, en fait, ça nous éclaire. Hein, tout est bon à prendre, quoi. Ça te permet de voir, ben oui, là, c'est vraiment pas tenable. Là, au contraire, c'est super engageant, ça m'intéresse. Ou là, au contraire, c'est super engageant, mais ils ont raté un truc. Là, c'est complètement délirant, mais il y a une idée qui est quand même super intéressante. Ben, tout ça, en fait, on a des choses à prendre.
Ouais, clairement, clairement. Et puis comme c'est un format long podcast, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais prendre comme espace, ouais, quelque chose que tu souhaiterais dire, prendre comme espace, que peut-être tu n'as pas dit ou fait ailleurs, voilà. Est-ce qu'il y a un sujet peut-être même transversal?
Ouais, peut-être. Alors, il y a une question que je me pose actuellement, c'est comment monter en échelle? Parce que cette histoire de bascule de la performance à la robustesse, donc voilà, ça vient. Mais comment on fait pour monter en échelle? Alors, moi, je parle... Voilà, comment on fait pour transformer et que ça se passe avec le moins de casse possible? Donc, pour moi, c'est culturel. Donc, c'est un changement culturel. Et donc, comment on fait pour faire ce changement culturel? En fait, qu'on sorte du dogme de la performance nécessairement positive. Et il me semble qu'il y a... il y a certainement plein de leviers possibles. Par exemple, les entreprises, hein, c'est un super levier parce que le jour où les entreprises ont basculé, bah, évidemment que le politique va suivre. Hein, et c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe en général. Hein. Enfin, il y a des réglementations qui nous aident. Mais tant que les entreprises restent dans le dogme précédent, c'est quand même l'économie qui drive un petit peu tout, donc il faut que les entreprises s'y mettent. Mais ce n'est pas suffisant, et il me semble qu'il y a une cible qui serait intéressante à creuser, c'est celle des ados, des adolescents. C'est qu'en fait, quand on est ado, on est typiquement dans une période de troubles, physiologique, amoureux, enfin, compagnie. Ouais, c'est un moment compliqué.
Il y a tout qui explose, ouais, si on peut dire.
Il y a du jeu dans les rouages, hein, et donc c'est là où, en fait, on va se rebeller contre ses parents, contre l'institution, contre le système. Et donc, en fait, c'est extrêmement fertile pour le monde de la robustesse, parce que justement, c'est un terreau qui peut dérailler du culte de la performance. Et surtout, il y a un sujet de santé publique quand même, parce que chez les ados, chez les jeunes adultes d'ailleurs, il y a une épidémie de dépression, une épidémie de burn-out aussi. Et donc là, il me semble qu'il y aurait quelque chose à imaginer. Donc là, c'est une bouteille à la mer. Je ne sais pas s'il faut faire des petites vidéos TikTok qui satiriques sur le culte de la performance complètement ringard ou sur construire la robustesse, des exemples aspirants qui sont super joyeux. Enfin, ou d'autres choses, hein, des audios, des pièces de théâtre. Enfin, et là, pour le coup, c'est pour ça que la fibre artistique, à mon avis, sera importante. Bon, pour créer ce trouble, mais du trouble constructif. C'est qu'on ne va pas ajouter du trouble au trouble. Hein. C'est du trouble qui permet d'atterrir, finalement, dans tous les sens du terme, hein, de se reconnecter à la Terre. Et ça serait de la santé publique, santé mentale publique, quoi. Et donc, mais je n'ai pas de, je n'ai pas de prescription. Mais il me semble que là, il y a un public intéressant.
Ça me parle énormément. Un, parce que je pense que l'humanité, elle est à un stade d'adolescence. C'est une croyance que j'ai. J'ai aucune preuve pour l'amener, hein, mais voilà, c'est ce que je pense. Et puis deux, parce que j'ai des enfants qui sont pré-ados. Et puis du coup, c'est une réflexion qui serait très intéressante aussi pour me préparer et puis peut-être pour vivre cette transition de manière plus belle, plus fluide. En même temps, ça va coincer, mais voilà, il y aura des apprentissages là derrière. Donc, ça me parle beaucoup. Merci infiniment à toi, Olivier, à Amand, pour toutes ces réflexions, toute cette intelligence, cette robustesse que tu apportes au monde. C'est vraiment génial. Je me réjouis de quand tu passeras en Suisse. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à me dire. C'est vrai que je préfère avoir les êtres humains en face de moi.
Bien sûr.
Et puis d'ici là, j'aurai fini ta formation, donc j'aurai certainement de nouvelles interrogations. Et puis là, de toute façon, c'est un sujet tellement central qu'on ne va pas arrêter d'en parler, je pense, pour les décennies à venir. Ça me semble crucial. Et puis dès lors, je te remercie beaucoup et puis je te dis à bientôt.
Ben, merci Antoine, merci de l'invitation et à très bientôt. Donc.
Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Et puis voilà, ciao.